Bienvenue sur le show Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Chaque semaine, je discute avec des entrepreneurs, innovateurs et créateurs à travers le monde. Des gens brillants, fascinants et créatifs. Ma mission est de partager leur histoire, leur parcours, le pourquoi du comment. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Pour cet épisode numéro 24, j'accueille des repreneurs du Otaku Lounge, les librairies de manga spécialisées de Montréal. Donc oui, on parle de reprenariat aujourd'hui et non d'entrepreneuriat. Découvrez le concept, découvrez leur dynamique expérientielle en magasin, en boutique et aussi en ligne. Donc bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir les propriétaires du Otaku Lounge et je vais les laisser immédiatement se présenter.
Bonjour Géraldine, moi c'est Coralie.
Bonjour.
Et moi c'est Amélie.
Enchantée.
Allô.
Bonjour, bonjour, moi c'est Jocelyn.
Alors, je suis vraiment contente de vous avoir aujourd'hui parce qu'on s'est parlé brièvement il y a quelques semaines, en fait, pour parler du Otaku Lounge. Alors, pour ceux qui connaissent pas, peut-être repréciser c'est quoi exactement et surtout pour ceux qui sont pas à Montréal, en fait.
Alors, les librairies Otaku, donc c'est un réseau de librairies spécialisées en manga, à la fois un réseau physique et un réseau numérique aujourd'hui.
Et le Otaku Manga Lounge, c'est une boutique qui a pignon sur rue sur la rue Saint-Denis à Montréal. Mmh. C'est un café manga, le premier café manga d'Amérique du Nord, selon les études qu'on a pu faire. C'est un concept japonais. Au Japon, ça s'appelle un mangakisa. Donc, c'est un endroit où on peut lire sur place, acheter des mangas, boire quelque chose de japonais, manger un petit truc, prendre des cours de japonais, des cours de dessin. C'est une boutique très expérientielle.
Alors, c'est vraiment génial parce que ça réunit plusieurs univers, justement, le côté lounge, puis le côté, justement, amour des mangas, des animés, etc. Donc, c'est un univers très, très particulier. Mais avant de passer à ces prochaines questions très, très business, depuis combien de temps, en fait, la librairie, elle existe ? Ainsi que le lounge, en fait.
Alors, le lounge sur Saint-Denis est ouvert depuis 10 ans et nous l'avons racheté il y a 6 ans.
Ok.
Et l'expansion en dehors du lounge, donc les autres lieux physiques et puis la partie plus numérique a vu le jour en 2020.
Mmh. Alors c'est sûr qu'on va creuser, puisque chaque petit morceau de ce que tu viens de dire, Amélie, c'est vraiment très très particulier et très spécifique. Et on va en discuter tout à l'heure, parce que je suis très curieuse de savoir, d'un point de vue stratégique, comment justement en 2020 vous vous êtes orientée pour avoir une expansion et avoir des justement une expansion à travers tout le Québec, mais on va en parler. Mais avant ça, alors ça existe depuis 2010 et là vous m'avez parlé d'un mot dont on entend très 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 peu parler, qui est le reprenariat. Qu'est-ce que le concept de reprenariat?
Effectivement, c'est pas la façon d'entreprendre la plus habituelle ou la plus à la mode. Le reprenariat, c'est l'idée de racheter tout simplement une entreprise qui existe déjà, qui souvent peut avoir fait ses preuves, ou tout au moins un historique sur lequel on peut se baser pour prendre des décisions, prendre la relève. Parfois, la relève peut être familiale à l'interne de l'entreprise, ou dans notre cas, c'était une relève vraiment externe. Amélie était cliente de l'entreprise avant qu'on rachète.
D'accord. C'est intéressant, c'est super intéressant. Mais du coup, c'est quoi les étapes, en fait, que vous avez prises pour pouvoir justement mettre en place toute cette stratégie de reprenariat? Parce que j'imagine que ça s'est pas fait en un jour, c'est sûr.
Exact. Déjà, la première chose, c'est de prendre connaissance du fait que l'entreprise est à vendre. Pour un propriétaire d'entreprise, mettre son entreprise en vente, c'est prendre le risque de perdre des clients si ce reprenariat arrive aux oreilles des clients avant la date prévue. Alors, c'est toujours un peu délicat. Donc, la première chose, ça a été de comprendre que c'était à vendre. Puis ça, étant assez proche d'anciens propriétaires, moi, j'ai pu en être informé je pense que l'entreprise était à vendre dès 2014, si je me rappelle bien, début 2014. Puis ensuite, vient l'intention d'achat, hein, comme quand on achète un building ou un condo. Mmh. Puis ensuite, négociation sur le prix, puis avec évidemment une vérification diligente pour S'informer des antécédents de l'entreprise, puis s'assurer que la transaction est sécuritaire, en tout cas qu'on met pas les pieds dans un nid de serpent. Et puis ensuite, une fois que le tout est conclu, il va y avoir une période de transition entre le cédant et le repreneur, qui est super importante parce que c'est à ce moment-là que le repreneur va
prendre en main l'entreprise,
puis connaître tous les secrets. Et c'est un peu la partie intéressante du repreneuriat, c'est de bénéficier de toutes les essais-erreurs que le précédent propriétaire a fait. Puis la dernière chose aussi importante, c'est la communication avec les clients et les partenaires.
Alors, je suis assez curieuse parce que tu mentionnes des éléments qui m'ont l'air très précisément légaux. Est-ce que ça veut dire que vous vous êtes fait accompagner justement dans l'acheminement vers reprendre en fait l'entreprise?
Mais en fait, ce qui a été particulier, c'est qu'à partir du moment où, avec Amélie, on s'est dit « ça, c'est de l'ordre du possible, on va commencer à y réfléchir sérieusement », on s'est inscrit à un cours de repreneuriat à l'École des entrepreneurs de Montréal.
Intéressant.
Qui est quand même connu. Et puis, ce qui était très, très marrant, c'est que dans notre groupe classe, on était les seuls qui apprenions et en même temps, on appliquait le lendemain presque. C'est-à-dire qu'on prenait un cours de négociation et le lendemain ou dans la semaine, on avait déjà 2-3 rencontres avec nos vendeurs potentiels. Pareil pour les aspects légaux, pareil pour les aspects de la vérification diligente. Alors oui, moi, je conseille vraiment d'être encadré. Aujourd'hui, il y a le Centre de transfert d'entreprise du Québec, dont c'est le mandat d'accompagner des entrepreneurs en revente ou en relève. Puis ça peut être aussi son comptable. Nous, notre comptable nous a aidé à évaluer l'entreprise. Mais peut-être pour rebondir aussi sur ce que tu dis, au-delà des aspects techniques ou légaux ou comptables ou administratifs, il y avait vraiment un gros aspect humain aussi. Et ça, c'est pas à sous-estimer.
Et alors, quand tu dis justement l'aspect humain, mais à quel niveau justement il y a eu des besoins d'être accompagné par des gens, puis peut-être justement bien connecté en fait avec les vendeurs aussi pour pouvoir faire la meilleure transition possible?
C'est peut-être la partie où il y a le moins d'accompagnement finalement, parce que on néglige l'aspect émotionnel d'une transaction de ce genre. Donc on se fait beaucoup accompagner sur les aspects techniques et légaux, et puis la partie émotive est plus mise de côté, alors qu'en fait elle joue un rôle très très important dans la transaction, parce que surtout quand on est affaire avec les premiers propriétaires d'une entreprise, ben, l'entreprise c'est un peu comme leur bébé. Alors quand il s'agit de vendre leur bébé, ils sont pas facilement non seulement ils ne sont pas facilement négociables, mais surtout il y a un côté très émotionnel quant à la quantité de travail qui a été fournie en tant que propriétaire de start-up.
Tout à fait. Et ça, je pense que c'est vraiment de s'y préparer en parlant peut-être avec des gens qui sont passés par là. S'il y en a qui nous écoutent, qui pensent à racheter une entreprise, ça peut être avec plaisir de partager un peu ce vécu, parce que c'est des étapes auxquelles on pense pas forcément. Et nous, notre conclusion avec Amé, c'est que c'est vraiment l'équipe la plus préparée qui a le gros bout du bâton, sans parler uniquement du côté financier, du gros bout du bâton, mais en arrivant vraiment préparé, en sachant à quoi on va s'attendre, en sachant quelles vont être les étapes, ça permet vraiment d'anticiper les étapes une à la fois et puis de guider la danse finalement qui est en train de se jouer. Et c'est vraiment important.
D'un point de vue plus, je dirais, matériel, comment ça se passe justement le repreneuriat? Est-ce que ça veut dire vous revendez l'existant, vous reprenez l'existant, vous le bonifiez, ou les équipes déjà sur place? Comment ça se passe?
Mais c'est sûr que déjà, l'avantage du repreneuriat, c'est de se baser sur un historique. Donc, au niveau financement, c'est beaucoup plus facile. Il y a un historique sur lequel les institutions financières peuvent se baser pour leurs calculs. Au niveau ensuite, c'est sûr qu'on peut racheter soit les actifs, soit les actions d'une compagnie. Donc, tout va dépendre de ce qu'on décide de racheter. Quand on est arrivé, nous, il n'y avait pas d'équipe sur place. C'était uniquement les propriétaires. Donc, on n'a pas eu besoin de faire une transition avec les employés. Ça, je pense encore une fois, quand l'humain intervient, c'est la partie la plus difficile, mais on n'a pas eu à la vivre.
Oui, la plupart du temps, de ce qu'on a pu voir dans d'autres collègues entrepreneurs ou dans d'autres cas de reprise, il y a une volonté de vraiment faire le moins de vagues possible au tout début, d'essayer de d'abord s'approprier ce qui existe, de garder aussi les gens dans une notion de sécurité, de continuité, de pas forcément tout revamper du jour au lendemain, de plutôt essayer de comprendre, de miser sur les acquis déjà présents, parce que c'est ça qu'on rachète, c'est les cerveaux qui sont dans l'entreprise et qui ont bâti tout ça, c'est les clients, c'est toutes les procédures. Et puis après, au fur et à mesure de la première année, c'est là qu'on vient vraiment y ajouter ce sang neuf, cette énergie nouvelle et en même temps les compétences nouvelles qu'on apporte en tant que repreneur et qu'on travaille avec les équipes sur place après pour développer. Donc nous, il n'y avait pas la partie équipe, mais pour tout le reste, optimiser les processus, voir comment on peut pousser plus loin et ainsi de suite, ben ça se fait pas forcément les premières semaines et les premiers mois, mais rapidement quand même.
Et puis clairement, ce qui est important, ça va être vraiment de garder les employés clés. Donc les propriétaires dans une petite entreprise sont des employés clés, mais leurs employés aussi, souvent, plus l'équipe est réduite et plus chaque employé est important. Donc c'est vraiment important de prendre ça en compte et de faire, comme tu le disais Coralie, le moins de vagues possible, parce qu'on le sait, tout changement dans une équipe amène beaucoup de bouleversements.
Oui, absolument. Alors, vous parliez justement de s'accompagner justement de professionnels, comptables et autres ressources légales, etc. Est-ce que ça veut dire que vous, quand vous avez pris cette décision, vous avez eu besoin en fait de financement pour pouvoir acquérir, et comment ça se passe versus une entreprise, on va dire, plus classique, entre guillemets?
Alors oui, on a eu besoin de financement. Comment ça se passe? Tout simplement, on demande pendant la vérification diligente à avoir accès aux anciens états financiers pour pouvoir... c'est pas toujours lisible selon qui a fait les états financiers. C'est pour ça que tu rigoles, je pense.
Je rigole parce que dans notre cas, il a fallu qu'on retrace l'historique qui était assez manuel. Fait qu'on a passé des week-ends à...
Oui, c'était un épais classeur avec des feuilles écrites à la main. Mais il y avait quand même des états financiers. Fait que bref, on demande d'avoir accès aux chiffres déjà pour étudier si l'entreprise est saine ou pas. Puis, c'est des documents qu'on peut donner à une institution financière pour qu'elle décide de nous financer ou non. Après, il y a toujours, dans la négociation, une partie qui est financée par les institutions et une partie qui est financée par le repreneur comme une mise de fonds. Et puis, il y a également une balance de vente qui est souvent négociée. Je dirais que si on veut vraiment généraliser beaucoup, ce serait un 30% de chaque. 30% financé, 30% de mise de fonds, 30% de balance de vente qui va être payée sur une durée donnée.
Alors, j'ai une question complémentaire, mais est-ce que justement, quand on est dans une transaction comme celle-ci, est-ce que ça nécessite justement d'avoir des assurances aussi? D'un point de vue...
C'est une bonne question. Au niveau des assurances, lors de la transaction, nous, on n'a pas eu d'assurance pendant la période tampon, je dirais. Les assurances du vendeur ont couvert jusqu'au jour de la transaction officielle, de la signature de l'entente. Et puis ensuite, nous, on a pris des assurances pour couvrir les activités commerciales, que ce soit une entreprise de service, un commerce ou peu importe. Les besoins d'assurance sont différents. Puis ce qui est une assurance, je dirais, tout au long de la procédure, il y a effectivement la communication qui doit être très présente, puis c'est une sorte d'assurance de pouvoir voir est-ce qu'on avance dans le même rythme et dans le même sens. Puis les autres types d'assurances, c'est les assurances contractuelles, c'est-à-dire qu'à chaque étape, on signe des contrats intermédiaires pour se dire, oui, on en est rendu là, on se met d'accord là-dessus, il y a encore telle étape de la vérification diligente à faire, si ça se passe comme prévu, voilà à quoi on s'engage de signer dans X semaines. Si les résultats de la vérification ne se passent pas comme prévu, voilà les portes de sortie ou de renégociation. Donc, ce n'est pas une assurance au sens formel, mais c'est des assurances quand même pour nous de dire on continue à travailler le dossier.
Et du coup, le processus, en fait, de bout en bout, ça vous a pris combien de temps, en fait, justement, pour arriver à la clôture de cette première étape?
On a pris connaissance du fait que l'entreprise était en vente en septembre 2014 et la fin de la période de transition a été en avril 2015.
Wow.
Donc, 7 mois.
Très court, hein. C'est rarement aussi court. Rapide.
Oui, c'est ça que j'allais... C'est ça que j'allais dire.
Très long.
Quand on est dedans, quand ça paraît long.
C'est ça que j'allais dire, parce qu'il me semble que quelque chose d'aussi... Je dirais lourd, peut-être administrativement parlant, ça devrait prendre un certain temps, mais vous avez fait ça super rapidement finalement. Pourquoi est-ce que vous avez réussi à faire ce tour et comment surtout avez-vous réussi à faire ce tour de force finalement en si peu de temps?
Les vendeurs étaient pressés.
Ah,
c'est sûr que ça a aidé un petit peu.
Et puis, faut rester modeste aussi, c'était une transaction à taille très très humaine. On n'est pas dans une entreprise manufacturière avec des dizaines d'employés. Alors, il y avait aussi beaucoup moins d'éléments pour nous à vérifier et à prendre connaissance.
Ouais.
Le fait aussi qu'on connaissait l'entreprise avant, ça c'est un gros plus.
Ouais.
C'est sûr qu'on n'avait pas les chiffres, mais de côtoyer l'entreprise que peut-être vous aimeriez acheter un jour, en tout cas en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose de très important, puis qui fait gagner du temps le jour J en fait, parce que il y a plein d'infos un peu informelles auxquelles on peut avoir accès déjà en amont.
Alors du coup on a passé un milestone, donc qui est justement le rachat. Maintenant, une fois que le rachat il est fait, qu'est-ce qui se passe?
Mais le jour où on arrive avec les clés dans la main, le premier jour, ça fait bizarre. Encore une fois, là, c'était en commerce de détail. Donc forcément, le premier jour où on arrive, on se retrouve tout seul devant les clients, avec les fournisseurs et avec tous les problèmes qui peuvent survenir. Mais c'est pas toutes les industries pareilles. Nous, la décision qu'on a prise, ça a été de standardiser. On arrivait dans une toute petite entreprise, donc avec aucun processus et aucune informatisation. Donc, d'informatiser les outils et de standardiser les procédures de travail afin de pouvoir recruter. Mm-hmm. Donc, la première chose pour nous, ça a été de mettre sur pied une équipe.
OK. Comment on recrute dans ces moments-là, justement, quand on... Là, on a repris les clés, et puis sur quoi on se bat justement pour aller trouver des bonnes ressources qui vont nous accompagner justement dans cette deuxième étape.
Très difficile la première fois parce que nous-mêmes, on n'est pas sûr de ce qu'on cherche.
Ouais.
Nous, en plus, étant dans un domaine ultra niché, c'était très difficile de trouver. Il n'y a pas d'école qui apprend à vendre des mangas. Et puis, on ne sait pas forcément les vendre nous-mêmes. Alors, assez difficile. Je ne sais plus comment on a fait.
On a mis des annonces, on a fait quelques essais-erreurs avec des étudiants qui étaient aussi là pour le court terme. Dans leur cas, certains étaient là en parallèle de leurs études et puis on a pu apprendre avec eux à définir mieux ce dont on avait besoin.
Mm-hmm.
Puis un gros facteur chance, hein, on est tombé sur quelques perles et quelques amours tout au long du processus qui nous ont aidés à faire vraiment une différence.
Dont deux sont encore avec nous aujourd'hui d'ailleurs.
Ouais, 6 ans plus tard.
Mais effectivement, outre ce facteur chance, de se baser sur des gens qui veulent rester peu et qui donc vont pouvoir nous aider à construire, mais sans nécessairement s'offusquer s'il y a beaucoup de changements.
Mm-hmm.
C'est intéressant.
Ça peut être une idée. Ça dépend des industries. Dans certaines industries, ça s'y prête peut-être moins.
Mm-hmm. Et alors, du coup, vous mentionnez aussi un point qui est quand même assez critique. Le côté justement technologie, là, je veux dire, le automatiser, informatiser en fait les processus. Concrètement, en fait, ça a été quoi les différents jalons pour pouvoir systématiser un peu finalement l'entreprise?
Mais en fait, le premier jalon, c'était la vision. Mmh. C'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ce projet de rachat? Puis ça, c'est bien important de le garder en tête que. Quand on rachète une entreprise, oui, on achète une solidité passée, mais on veut peut-être en faire quelque chose de différent ou de plus grand ou d'une avenue différente de ce qui existait. Donc nous, ça, c'est parti de cette vision de dire on ne se voit pas être des commerçantes, on n'achète pas cette entreprise juste pour se créer un emploi pour nous. On voit plus grand, on va peut-être en ouvrir d'autres. On avait déjà des ambitions en voyant le marché du manga qui, en Amérique du Nord, allait probablement vivre une vague de croissance. Donc, ça partait déjà de la vision, puis de notre plan stratégique long terme, disons. Et puis ensuite, il y a eu des premiers milestones très, très basiques. Hein. C'est des petits pas, mais installer un POS, un système de caisse, dans notre cas. Dans un entrepôt, ça serait peut-être un warehouse management system. Donc, d'installer, d'informatiser des outils pour centraliser des bases de données de produits, des bases de données de clients. On a centralisé l'information client. On a beaucoup de membership dans notre modèle d'affaires. Donc, d'avoir l'information de nos clients pour pouvoir communiquer davantage avec eux.
Oui, la toute première chose, je pense, outre le fait d'avoir un POS et de pouvoir gérer le stock de façon informatique, c'était le plus vite possible de récupérer de la donnée client.
Mm-hmm.
Même si Nous n'étant pas les deux propriétaires technologiques aujourd'hui de l'entreprise, ça c'est sûr, on n'avait pas forcément la vision de ce qu'on allait en faire au final, mais on savait que c'était important. Donc de récupérer tout de suite de la donnée client, quelle que soit la forme, et qu'elle soit exploitable, ça c'était une des priorités.
C'était aussi une façon pour Amélie d'apprendre à comprendre comment fonctionnaient nos clients, parce que comme il n'y avait pas de traces de tout ça, c'était très informel dans la relation client que les anciens propriétaires avaient bâti, il fallait modéliser ça. Donc tout au long des 5 premières années, ça a été d'informatiser, de standardiser des processus. Alors comment on fait des mises de côté pour conseiller des mangas, pour permettre aux gens d'avoir un suivi personnalisé sur leur série. Donc tout ça a fait vraiment l'objet d'analyses, de processus physiques parfois, de mettre les livres à certains endroits d'une certaine façon, de communiquer à la main avec les clients, mais aussi supporté de plus en plus par de la technologie. Dans le but de pouvoir déléguer de plus en plus facilement ce travail.
Donc du coup, votre transformation numérique, elle s'est faite en symbiose finalement avec vos clients directement au final. Parce que ce n'est pas toujours le cas dans bien des entreprises, mais vous, ça a été votre cas.
Complètement.
Oui, puis vraiment, aussi, ça n'a pas été un virage numérique, c'est une courbe numérique. Ça fait depuis le jour 1 qu'on est dans l'entreprise qu'on a commencé un virage numérique qui ne finira probablement jamais, parce que on fait évoluer le modèle d'affaires en continu, parce qu'on est encore en mode croissance. Et donc, les supports technologiques doivent contribuer à la valorisation du modèle d'affaires. Donc, nous, c'est comme ça qu'on le voit.
Alors, je suis assez curieuse parce que du coup, il y a le modèle, en fait, de la librairie, mais il y a aussi le modèle du lounge. Comment justement vous, je ne sais pas si on peut dire juxtaposer ou vivez en parallèle, en fait, les deux modèles, ou c'est un modèle expérientiel, en fait, à 360?
C'est effectivement un modèle expérientiel. On pense que l'avenir du commerce de détail, il n'est pas dans le retail tel qu'il est aujourd'hui. On pense qu'il n'est pas non plus uniquement sur le web, parce que on le voit en ce moment, les gens ont besoin de socialiser, ont besoin de se retrouver, ont besoin d'espace de vie. Donc on l'a vraiment pensé selon un modèle expérientiel où à la fois, quel que soit le besoin de départ du client, il va découvrir toute une gamme d'activités ou de produits qui sont similaires dans un milieu donné.
Autour de sa passion.
Mais alors, du coup, quand vous parlez d'activités, par exemple, dans le côté expérientiel, c'est quoi les activités, justement, qu'on peut retrouver en même temps par le côté librairie, mais en même temps le côté large, en fait?
Oui, alors, il y a déjà la lecture. Pour nous, c'est très important d'encourager les gens, quel que soit leur âge. On dit toujours les jeunes ne lisent plus, mais les gens en général, pas juste les jeunes, à lire. Donc, le Lounge, par exemple, possède sa propre bibliothèque de 10 000 livres que les gens peuvent lire sur place, avec des sofas, des couvertes. Alors, il y a le thé qui est inclus avec, pour vraiment passer un moment relaxant avec sa série. On organise des cours de japonais, des cours de dessin manga, donc vraiment tout ce qui touche à l'univers japonais en tant que tel.
Avant la situation Covid, on avait des projections d'animation japonaise, donc des animés en japonais sous-titrés pour vraiment s'immerger.
Des soirées jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéo, donc tout ce qui peut toucher de près ou de loin la culture pop japonaise et qui rejoint un public un peu geek.
Il y a aussi tout le côté café qui n'est pas le cœur de métier, mais qui fait en sorte que quelqu'un qui passe plusieurs heures, parce que justement il y a plein de choses à vivre dans cette boutique là, il peut aussi manger un ramen, manger des onigiri, boire un bubble tea, donc continuer son expérience japonisante autour de la nourriture aussi.
Voulant développer un petit peu la clientèle autre que vraiment la clientèle geek, on s'est tourné vers les familles et les enfants, et donc avec des camps de jour notamment.
Ok. Alors je suis très très curieuse des camps de jour, peut-être très intéressée parce que j'ai un petit garçon. En quoi consiste justement les camps de jour justement dans votre univers?
Alors, les camps de jour otaku, il y en a trois sortes. Il y a des camps de jour de loisirs créatifs qui sont très, très variés dans le type d'activité, mais qui tournent tous autour de semaines thématiques. Alors, il y a la semaine Naruto, la semaine Pokémon, la semaine Dragon Ball, One Piece. C'est pour les jeunes de 8 à 14 ans, disons, cette catégorie de camps de jour. Et puis, à travers la semaine, ils vont vivre tout un paquet d'expériences et d'activités très manuelles et très loisirs autour du manga. Il y a même des périodes de lecture libre. Il y a des périodes plus calmes, des périodes aussi de jeu à l'extérieur. Et tout tourne autour de l'univers manga d'une façon ou d'une autre. On a aussi des camps de jour intensifs de dessin manga qui sont presque plus des bootcamps. Donc là, on est plus sur des 12-17 ans qui viennent vraiment s'imprégner du dessin manga, se faire coacher par des professionnels de dessin manga et puis progresser tant sur le point technique, mais aussi socialiser, puis travailler sur leurs projets perso. Puis on a aussi un volet un petit peu plus intello avec des camps de jour d'initiation au japonais qui intéressent de plus en plus le japonais, les jeunes d'aujourd'hui qui veulent regarder leurs animés sur Netflix en japonais de plus en plus. Alors, ça ressemble un peu à ça. C'est sûr qu'avec la situation, on s'adapte aux mesures et on essaie de faire des choses aussi à l'extérieur.
C'est super intéressant. Alors, c'est sûr, vous avez une gamme d'activités, finalement, que je vais appeler des produits expérientiels assez diverses et variées. Comment, d'un point de vue tactique et stratégique, on market, en fait, ces différents produits?
Ah ben ça, c'est tout un défi. Et peut-être que ça fait le pont avec la croissance de l'entreprise. Parce qu'en fait, à un moment donné, ce moment donné, c'est août 2019, on a eu ce point à faire avec Amélie, à se dire, est-ce qu'on peut continuer de déployer le projet maintenant que les bases sont solides au Lounge de Saint-Denis, maintenant que les processus sont améliorés, optimisés, qu'on a une belle équipe qui est de plus en plus autonome, est-ce qu'on est capable de continuer à pousser le projet toute seule? Et c'est là qu'on a dû aller chercher, et je rebondis pour ça, parce qu'on a dû aller chercher des compétences en marketing, en communication, en technologie, on va en parler avec Jocelyn tantôt, pour vraiment propulser tous ces projets-là, toutes ces lignes d'affaires-là à une autre échelle. Et c'est encore aujourd'hui un défi, même avec une équipe maintenant, avec des graphistes à l'interne, une mini-agence marketing interne, ça reste un défi parce qu'on a beaucoup de lignes d'affaires, on rejoint beaucoup de segments de clientèle. Ouais. On travaille aussi même avec des institutions publiques, les écoles, les bibliothèques. Alors, d'intégrer tout ça sans surcharger nos clients d'informations, c'est beaucoup de segmentation, c'est beaucoup de travail des équipes marketing. Là, oui.
Je trouve ça super intéressant parce que, en fait, là, c'est comme vous avez du B2G, donc business avec le gouvernement, puis en même temps du B2C avec des consommateurs, puis du B2B quelque part aussi pour trouver d'autres partenaires d'affaires. Donc, c'est assez. Vous touchez à tous les segments possibles, c'est assez important. Mais alors, du coup, on va en parler. Vous avez fait des pivots. Et vous êtes en croissance, mais on est toujours en pandémie. Je veux savoir votre recette.
La recette, c'est deux ingrédients magiques qui s'appellent Vanessa et Jocelyn. Ça a été le début de la suite de l'aventure. À la fin de l'année 2019, ils ont commencé à rejoindre progressivement le projet, puis officiellement vraiment plus en janvier 2020, ils ont intégré l'équipe, Vanessa avec une grosse expérience en analyse d'affaires et puis en structuration d'entreprise, mais aussi en marketing. Et puis Jocelyn qui est data analyst, il a fait pendant 20 ans du marketing automation, qui est même conférencier en intelligence artificielle. Alors ils venaient vraiment tous les deux complémenter l'équipe. Et ça a été le début du pivot, de se dire, si on veut continuer de croître, il va falloir ouvrir de nouvelles boutiques. Alors, comment le faire de façon innovante et collaborative et gagnante? Il va falloir être beaucoup plus présent et intéressant sur les médiums numériques. Il va falloir être omnicanal. Et depuis le début de cette nouvelle voie et ce nouveau pivot, c'était comment construire un modèle click to brick et brick to click. Parce que pour nous, c'est le futur du retail. En restant expérientiel, en restant très personnalisé sur le service. Et vraiment, ça a été de s'entourer parce qu'il faut aller chercher les expertises qui nous manquent si on veut grossir. On est rarement les bonnes personnes pour mener tout seul à la prochaine étape. Il faut d'autres ressources.
Clairement. Alors, du coup, oui, le Covid a frappé à votre porte et vous avez pivoté. Mais comment est-ce que vous avez jalonné votre pivot? Alors, intégrer de nouvelles ressources, c'est une première étape. Mais la deuxième étape, c'est de commencer à intégrer, de pivoter aussi la vision. Comment est-ce qu'on fait ça?
C'est une bonne question. En fait, on a intégré les ressources un petit peu avant que Covid nous tombe dessus. Essentiellement, ce qui s'est passé avec la situation Covid, c'est que nous, on a trois volets de croissance. Mmh. On avait le volet d'ouvrir des nouveaux lounges, comme sur Saint-Denis, dans d'autres oui. grandes villes nord-américaines.
Oui.
Donc ça, c'est un format, disons, de franchise, pour que ce soit plus simple. Le deuxième volet, c'était un modèle un peu hybride du shop-in-shop, comme on peut dire, ou du corner-shop, donc un coin manga dans des boutiques existantes. Oui. Puis le troisième volet, c'était le numérique. C'était avoir une boutique en ligne beaucoup plus performante, une expérience en ligne beaucoup plus intéressante. Mmh. Et puis en janvier 2020, on s'est dit, on mise tout sur le physique, le numérique, on verra plus tard. Donc le Covid, ça nous a rappelé à l'ordre. Et ça, ça a été le premier pivot, à dire ben, le numérique doit passer devant le reste.
OK.
En priorité, dans les priorités. Et puis, on va devoir laisser de côté un petit peu le volet franchise pour intégrer plus de corner shop, parce que on est dans une industrie qui pouvait quand même être quand même porteuse malgré le Covid, et donc ce modèle collaboratif pouvait être gagnant. Alors ça, c'est le pari qu'on a fait en mars-avril 2020. Mais du coup, ça passait beaucoup par Jocelyn et toutes ses compétences technologiques pour nous amener vraiment à une autre échelle au niveau des process et des outils de gestion de la donnée notamment.
Mmh. Alors Jocelyn, du coup, c'est sûr, t'es arrivé au bon moment finalement en 2019, finalement juste pré-Covid entre guillemets, pour mettre les choses en place pour le numérique. Mais concrètement, pour la taille de l'entreprise à l'époque, qu'est-ce que ça voulait dire? Et d'un point de vue justement technique et technologique, comment est-ce que justement t'es passé à ce tour de force-là?
Mais en fait, ce qu'il y a, je pense, ce qu'il faut voir, c'est que le numérique aujourd'hui, on parle beaucoup de tout ce qui va être sur le web et ce qui va être vu par nos clients dans le domaine du B2C. Et on parle beaucoup de l'expérience en ligne au-delà du site internet. Mm-hmm. Mais à l'époque, je pense qu'en 2019, quand on a commencé et même en fait quand on a eu l'idée du, enfin en fait quand on a eu discuté du projet et de comment ça allait évoluer, en fait comment ces réseaux physiques allaient pouvoir se mettre en place. La technologie mmh. était beaucoup l'automatisation des processus organisationnels et les processus opérationnels. Et ça, en fait, je pense que c'est aussi mmh. un élément qu'on met un peu de côté dans le côté numérique. Mais le numérique et la mise à l'échelle ne fonctionnent que lorsqu'on a de l'automatisation. Et cette automatisation va être basée sur des mmh. systèmes qui sont capables de communiquer et sur une espèce de solidification, en fait, de l'ensemble des processus. Et c'était vraiment ça, en mmh. fait, l'idée de base. Le numérique, comme l'a dit Coralie, dans notre retraite stratégique de janvier 2020, était un des éléments de sortie où ça allait être un élément où le web allait être un des canaux de sortie finalement de toute cette technologie qu'on allait mettre en place. Mmh. Mais le premier canal de sortie, c'était vraiment les espaces manga et éventuellement les nouveaux lounges. Et donc ça passait par par cette automatisation de ce qui avait déjà été fait dans les cinq et six années, parce que c'était, maintenant c'est six, donc à l'époque c'était cinq années précédentes de capture de données, d'analyse de données, de gestion de systèmes de recommandation, de compréhension de la segmentation, de compréhension de la gestion des produits. Et c'était cette mise à l'échelle-là qui a été en fait le déclencheur de la nécessité technologique de ce projet et qui fait en sorte qu'aujourd'hui on peut penser à être à l'échelle et de pouvoir grandir parce qu'on met en place ces solutions.
J'espère que cet épisode numéro 24 vous a plu. C'était le premier épisode de série de deux épisodes dédiés au Otaku Lounge. Donc, je vous invite la semaine prochaine à écouter la suite de cet épisode, la suite et la fin, bien entendu. Et en attendant, je vous invite à me suivre sur les réseaux, à les suivre également. Et à très vite!